de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, aujourd'hui, nous sommes en présence d'un homme qui se préoccupe du secteur rural du département de la Dordogne. En effet, il est directeur d'un journal qui est entièrement consacré à parler du monde rural et de ses activités. Il s'agit de Réussir le Périgord et Jean Ricato nous a fait le plaisir d'accepter le principe de cet entretien, je l'en remercie beaucoup. Monsieur Ricato, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Réussir le Périgord ?
Oui, bonjour. Alors, Réussir le Périgord, c'est le journal, c'est l'hebdomadaire du monde rural en Dordogne. Alors, historiquement, c'était, pour ceux qui l'auraient connu, l'agriculteur de la Dordogne. Et il y a maintenant plus de 20 ans, nous avons changé de titre pour nous appeler Réussir le Périgord. Donc c'est vraiment le journal des agriculteurs. Il est présent dans toute la Dordogne et notamment dans le milieu agricole et rural.
Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu son importance relative, l'importance relative de ce journal, par quelques chiffres ?
Oui, alors c'est encore, alors je dis encore parce que le milieu agricole a pas mal baissé, a diminué depuis 10 ans, 20 ans. Donc c'est encore presque 23 000 lecteurs chaque semaine sur la Dordogne. C'est à 90% des abonnés, c'est les gens qui reçoivent par la poste le journal tous les vendredis. Et on a 10% de ventes en kiosque, c'est-à-dire que dans les secteurs, notamment sur le Saladé, Bergerac, on a de la vente en kiosque, les gens viennent chercher leur journal, grosso modo avant le marché, on va chercher le journal. Donc ça reste le leader dans la presse agricole, mais aussi des hebdos, puisqu'on touche tout le département, et maintenant on n'a malheureusement pas d'hebdos qui touchent tout le département, on est les seuls à être diffusés sur l'ensemble du département. Donc ça c'est vraiment la spécificité. Et vraiment dans le monde rural, c'est-à-dire que notre diffusion, elle se trouve peu sur Périgueux, Bergerac, Sarlat, mais par contre dans les campagnes, tout le département est touché en fait. On a des abonnés partout, donc notamment dans le monde rural évidemment, hein, c'est plus facile qu'en centre-ville. Et comme on ne fait que de l'information rurale et agricole, on ne fait pas de faits divers, on ne fait pas de sport. Donc on a vraiment une spécificité sur la vie de notre monde rural, sur la vie d'un département comme la Dordogne, hein, très clairement.
Alors justement, pourquoi cet intérêt particulier pour le monde rural d'un département comme la Dordogne ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui caractérise ce département par rapport à d'autres départements ?
Alors effectivement, c'est un département rural. Donc nous, on avait un vrai intérêt. Alors, on fait partie de la famille de la presse agricole et rurale. Donc, il y a quasiment un titre de presse, et souvent même plusieurs, agricole et rurale par département français. Donc, que nous, à l'issue de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, on a, comme toutes les familles de presse, souvent créé notre titre. Mais à l'époque, il fallait nourrir la France. Donc, il fallait avoir aussi un outil technique. Et donc il est né, l'agriculteur de la Dordogne est né en fait de l'après-guerre, hein, et on est resté, on a gardé le même ADN, on apporte de l'information technique professionnelle, on a apporté ça tout au long de notre existence. Et aujourd'hui, vous le voyez peut-être moins sur Réussir le Périgord lui-même, mais c'est parce que nos abonnés peuvent avoir une revue technique Réussir qui correspond à leur production, une revue technique du groupe Réussir, que ce soit réussir grande culture, réussir céréales, réussir bovin-viande, bovin-lait. Enfin, on a 9 revues nationales qui sont très spécifiques sur une production spécifique. Et nos abonnés donc, peuvent avoir le journal Réussir le Périgord plus une revue technique. Donc on a moins de technique dans le journal, mais plus de vie économique ou de vie du monde rural.
Ce que vous présentez dans votre journal, ce sont des reportages, ce sont des nouvelles pratiques. Qu'est-ce qui constitue donc la matière de Réussir le Périgord à côté de ces suppléments techniques qui peuvent être servis à vos abonnés?
Alors notre journal est découpé d'abord en actu départemental et local. Ça c'est le début de notre journal. Suivant le découpage traditionnel, alors on a un petit peu abandonné, d'ailleurs depuis le premier confinement, le découpage traditionnel des 4 Périgords, mais parce qu'on n'arrivait pas à avoir cette actu locale là sur le terrain, donc on la reprendra peut-être, mais en tous les cas on a ce découpage là. On a l'information départementale, ce qu'on juge départemental, sur une ou deux pages. Après on a 3 ou 4 pages d'actu locale. On a ensuite une page d'actu nationale, une fois par mois ou plusieurs fois, enfin tous les 15 jours, on a une page d'actu régionale aussi, en partenariat avec nos confrères de la presse agricole. Et ensuite, on a des pages qu'on appelle nous Entreprendre, qui sont des pages de la vie des entreprises du monde rural, mais que ce soit l'agriculteur, que ce soit le boucher, le boulanger, ou même l'entreprise qui est installée dans le monde rural. Qui relève, elle, plus de la CCI, par exemple. Donc ça, c'est ce découpage-là. Et après, sur la fin du journal, on a plutôt de l'info pratique. La cotation est courte, les petites annonces, les annonces légales. Et puis, en fin de journal, plutôt spectacle. Pour l'été, manifestation d'été. Et puis, une DER, qui est un reportage magazine chez nous.
D'accord. Alors là, c'est justement, je m'inquiétais, je me disais, mais c'est du sérieux du début à la fin, mais quand même, à la fin, ça se relâche un petit peu. Comment pratiquement travaillez-vous? Quel est l'effectif de votre journal, vos journalistes? Et comment identifiez-vous et quel type de correspondant avez-vous dans votre terrain, c'est-à-dire le monde agricole, le monde rural périgourdin?
Alors, nous avons une équipe ici sur Périgueux de 12 salariés, donc qui représente tous les métiers d'un titre de presse. Hein. On a de la gestion de l'abonnement qui est faite ici. On a évidemment la gestion de l'entreprise classique avec comptable et secrétaire. On a aussi notre service commercial qui est ici sur Périgueux, qui est intégré à l'entreprise. Et ensuite, on a le service PAO pour la mise en page du journal ou des différents travaux que nous faisons ici. Et on a 4 journalistes plein temps au siège à Périgueux, là qui travaillent pour nos différents supports, mais essentiellement pour Réussir le Périgord. Et ensuite, on a des collaborateurs de presse. Alors nous, ça va du technicien de la chambre d'agriculture, par exemple, qui nous aide ou qui nous écrit ou qui nous oriente sur des articles. C'est pareil pour la Chambre des métiers ou la CCI. Là, on a des collaborateurs qui viennent et qui nous donnent des sujets et qui nous aident. Et après, on a le collaborateur de presse classique, le correspondant de presse, qui, lui, est sur un secteur géographique précis et qui nous alerte et qui nous fait remonter de l'information de ce secteur géographique. Puisque vous savez que le département de la Dordogne est un grand département et que de Périgueux, on est central, mais c'est compliqué de couvrir tout le département. Et il y a des zones, par exemple, l'été, aller sur Sarlat, un journaliste de Périgueux, c'est long. Il vaut mieux avoir un correspondant local sur le secteur. Et donc là, on a tout un réseau de correspondants géographiquement dispersés sur tout le département. Et entre nos différents supports, entre Réussir le Périgord, Famosa ou Actu.fr, on a une douzaine de correspondants locaux de presse qui nous aident à faire remonter cette information locale.
Alors, vous aviez parlé des suppléments techniques, mais vous venez de citer autre chose. Actu.fr et puis Famosa, par exemple. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont ces prolongements? Puisque là, vous êtes décrivez véritablement un appareil quasi tentaculaire.
Alors non, 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 pas du tout, c'est juste un complément en fait chez nous. L'activité principale, elle est bien réussir le Périgord. Sauf que depuis quelques années, maintenant 3-4 ans, on a repris un titre de presse qui s'appelle Famosa, donc qui est vraiment destiné aux femmes. C'est un magazine féminin, c'est aussi une exclusivité, j'allais dire, en Dordogne. On a notre magazine féminin, c'est-à-dire que les femmes du Périgord ont leur propre magazine ici.
C'est une exclusivité.
Ah oui, ça n'existe pas dans d'autres départements. C'est-à-dire qu'en général, un journal féminin, il est soit régional, soit il est national. Mais local, ça n'existe pas. À ma connaissance, on n'en a pas d'autres. Donc là, on a vraiment un magazine féminin là-dessus, avec une équipe aussi dédiée. Ça, c'est un magazine qu'on trouve en kiosque ou par abonnement tous les 2 mois. Le prochain, d'ailleurs, sortira d'ici quelques semaines. Ensuite, on a actu.fr qui est là un prolongement aussi de notre activité et là qui est un site Actu Dordogne, qui est un site que Réussir le Périgord contribue presque exclusivement, hein, c'est notre contribution à la Dordogne. Et là, c'est un site d'actualité, c'est quotidien, mais là encore une fois, c'est bien de la vie de la campagne et la vie de notre territoire, de nos territoires ruraux, donc il est question sur ce site internet.
Alors, justement, ces sites, Réussir le Périgord et Actu.fr, ça montre que les ruraux, et en particulier les agriculteurs, sont ouverts aux techniques nouvelles d'information. Et donc, sinon, j'imagine que vous n'auriez pas créé ces supports.
Oui, très, très clairement, on est de toute façon, nous, obligés de vivre aussi avec notre temps. On préférerait tous garder le papier et ne faire que du papier, sauf que c'est pas le cas. Le papier, c'est une chose, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer et c'est bien parce qu'on a des abonnés là-dessus. Mais on est aussi obligé de répondre aux attentes des lecteurs, des nouvelles habitudes de lecture. Et le numérique est un canal de diffusion aujourd'hui sur lequel on ne peut pas être absent. On est obligé d'y être. C'est une obligation, en fait. Hein. Ne serait-ce que pour intéresser les nouvelles générations. L'idée, elle est bien de les amener au papier parce que, de toute façon, sur le numérique, on peut très peu faire de techniques, de pratiques. On fait de l'information qu'on va pousser à nos lecteurs. Et ce qu'on veut, c'est effectivement éveiller leur curiosité pour qu'ils viennent voir des compléments et de l'information plus recherchée, plus poussée sur le papier. Parce que le support papier reste pour nous un support obligatoire et essentiel, parce que de toute façon, un dossier technique, vous ne le lirez jamais sur votre portable. Sur le portable, vous allez lire le teasing, vous allez lire le produit d'appel, ce qu'on vous offre, et on va vous attirer pour et vous inviter à venir le lire sur le papier, un dossier complémentaire et un dossier beaucoup plus complet et beaucoup plus technique, notamment sur ce qui est la presse professionnelle, en fait.
Je voudrais maintenant que vous nous parliez, à la lumière de votre expérience, du monde rural de la Dordogne. Quand même, on a lieu d'être préoccupé par l'avenir du monde rural et l'avenir de l'occupation des campagnes françaises. Si on considère qu'il ne reste que 1% de la population active parmi les actifs de 1% de paysans, au sens où on l'entendait naguère, on a lieu d'être préoccupé. Mais ce monde rural, il bouge. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui décident de s'installer à la campagne. Comment se dessine pour vous l'avenir de cette population rurale ?
Alors, c'est bizarrement un secteur très dynamique, finalement, mais qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était des entreprises familiales. C'est-à-dire qu'on se cédait l'entreprise de père en fils.
Et souvent de polyculture.
Et de polyculture. En tous les cas, en Dordogne, c'est de la polyculture élevage, très clairement. mais on se cédait, c'était familial. Et aujourd'hui, ce système-là, évidemment, perdure, persiste, et ça fonctionne très bien, et on en a, mais on en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intègre ces nouvelles façons de faire de l'agriculture, qui sont les néo-ruraux, les gens qui viennent après une carrière souvent, une carrière active dans d'autres secteurs d'activité, ils arrêtent et ils viennent, alors peut-être avec une image un peu d'épinal de l'agriculture, hein. Mais voilà, mais ils y viennent, mais on doit, nous, les professionnels de l'agriculture de la Dordogne, ont bien compris que c'était un enjeu majeur et qu'il fallait les accompagner, qu'il fallait d'abord les accueillir, ces gens-là, et qu'il fallait les accompagner vers une agriculture durable, parce que on a des systèmes de culture différentes et d'agriculture différentes qu'on ne peut plus opposer aujourd'hui. Elles doivent vivre, elles doivent cohabiter. Ces différents systèmes doivent cohabiter, ces différentes agricultures doivent cohabiter. Et on a besoin de tous ces types d'agriculture, mais on doit les accompagner et surtout pas les opposer, parce que de toute façon, il faudra produire, il faudra encore produire en masse, mais il faut produire mieux. Donc on peut produire bio, on sait produire bio, on sait produire, en Dordogne notamment, on sait faire de très belles productions qualitatives avec le respect du bien-être animal, avec le respect de la nature. Et on ne peut pas opposer, par exemple, bio et traditionnel. Aujourd'hui, les deux vont dans le bon sens. On a changé, de toute façon, même les agriculteurs traditionnels ont bien conscience que on doit prendre en compte le bien-être animal, qu'on doit prendre en compte la nature qui nous entoure. Donc tout le monde en a pris conscience. Donc à mon avis, ce monde rural, il est très riche, il est très dynamique. Évidemment, il s'oppose parce qu'il y a différents systèmes qui s'opposent, mais les acteurs aujourd'hui ont bien compris qu'il fallait bosser ensemble. Donc c'est un point très positif pour la Dordogne. La Dordogne attire des nouveaux installés. Ils viennent s'installer en Dordogne parce qu'ils ont cette image d'un département rural, agréable à vivre, où on peut s'installer, où on peut avoir une autre façon de vivre. Et derrière, si on arrive à les accueillir dans l'agriculture et leur dire « Allez-y, installez-vous, on va vous aider, on va vous accompagner », on aura tout gagné. Hein.
Est-ce qu'à votre avis, alors, vous avez évoqué quand même effectivement cette tendance à une spécialisation croissante dans des productions et des productions qui se fassent en accord avec les préoccupations contemporaines de qualité et de respect de la nature. Mais est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, malheureusement, il y a une déprise ? Est-ce qu'il y a des terres en friche ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, qui abandonnent leur exploitation et que celle-ci n'est pas reprise ? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ce monde rural dont vous avez évoqué le dynamisme, mais dont tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il est un petit peu en crise ?
Oui, il est très nettement en crise. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'il prenne ce tournant et qu'il arrive à prendre cette espèce de tournant. Effectivement, on a des paysages qui se ferment en Dordogne, ce qu'on appelle un paysage qui se ferme. C'est un agriculteur qui arrête et on arrête d'entretenir les terres et on voit les paysages changer. Là où on avait des cultures, du blé, du maïs, de l'élevage, on ne voit plus rien et c'est un paysage qui revient à l'état un peu sauvage, et ça c'est un petit peu... D'abord c'est triste, et puis c'est dur, mais parce que ça fait aussi peur aux repreneurs, hein, de reprendre une grosse exploitation, ou même de reprendre des hectares, c'est pas aussi simple que ça, parce que mine de rien c'est une entreprise à faire tourner, c'est un investissement de départ qui coûte cher, quand on n'est pas dans la famille, quand c'est pas la famille qui nous le cède. Ceci dit, même si c'est la famille qui vous le cède et qui a des frères et sœurs, c'est pas aussi simple que ça non plus. Hein. Donc oui, c'est compliqué. Cette culture entrepreneuriale en agriculture, elle n'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme si vous montiez une petite entreprise de service où l'investissement de départ n'est pas énorme et le risque est moins gros. Là, il y a un vrai risque. Donc on a besoin d'accompagner ces repreneurs. Et effectivement, trouver des repreneurs avec des fonds disponibles pour réinvestir dans une structure agricole, ben c'est pas aussi simple que ça en fait. En tous les cas, ça l'est moins que quand c'était au sein d'une même famille. Et c'est bien aujourd'hui tout le débat, c'est-à-dire comment retrouver des repreneurs et des gens qui sont prêts à investir dans quelque chose qui n'est pas aussi rentable que... En tous les cas, ce n'est pas aussi simple, puisqu'on a des éléments naturels, notamment, qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tous les éléments en agriculture, et c'est bien la difficulté.
Et des personnes armées d'une technicité suffisante aussi.
C'est clair.
Ça, c'est aussi un problème.
Oui, c'est un vrai souci. Hein. Ce qu'on demande aujourd'hui, produire bien et mieux, ça demande une technicité... qui est pas donné à tout le monde. Hein. On peut pas décréter qu'on va devenir agriculteur et venir faire tourner une exploitation. Ça se passe pas comme ça. Il faut aujourd'hui avoir de sérieuses bases pour se lancer là-dedans.
Est-ce que votre journal et les différents organes d'information qui le recouvrent, qui le dirigent, reçoit des messages du monde agricole? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des demandes d'informations? Comment se passe bien sûr, vous avez parlé des correspondants que vous aviez, mais est-ce que vous avez l'impression que votre journal est une part active de la vie de ce monde rural?
Oui, alors j'ai peut-être la faiblesse de l'espérer, mais non, mais c'est une vraie part active parce que en fait on répond aux sollicitations de nos lecteurs, aux gens qui ont croisé un exemplaire du journal et qui se disent tiens, ça serait bien qu'ils parlent de ça, je vais les interroger. On est sollicité tous les jours pour répondre à des questions précises. Et c'est ce que je vous disais au départ, comme on fait ni sport ni politique. Ni faits divers, en fait, on a aussi le temps de se pencher sur des sujets de fond et de répondre à des préoccupations de nos lecteurs ou de notre environnement proche, notamment sur l'agriculture. Que ce soit nos lecteurs, que ce soit les techniciens de la Chambre d'agriculture ou même les techniciens de la Chambre de métier ou de la CCI qui nous interrogent et qui nous demandent d'aller sur un sujet très précis, on y va. C'est l'avantage de l'hebdomadaire. On a aussi le temps de la réflexion, on a aussi le temps de la construction, le recul sur nos articles. On est rarement dans l'urgence. Donc on a le temps de répondre à ces attentes précises des lecteurs.
Ça, c'est très bien. Mais malgré tout, j'ai quand même une question un peu provocatrice à vous poser. Parce que vous efforcez à la neutralité... Mais il est bien connu qu'il y a quand même que tous les paysans, tous les exploitants ne pensent pas de la même façon l'avenir de l'agriculture. Est-ce que ça transparaît dans vos publications? Est-ce que vous sentez ces tensions quand même qui existent?
On les sent. Alors très clairement, dans nos actionnaires, la FDSEA, qui est le syndicat majoritaire en agriculture, est actionnaire du titre. Les JA aussi, jeunes agriculteurs, ils sont actionnaires du titre. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas parler des initiatives de la Confédération paysanne ou de la coordination rurale en Dordogne. On suit toutes les initiatives, les installations, la maison des paysans, on les suit bien évidemment. On est attentif à toutes les demandes et on essaie effectivement de porter les messages au-delà des polémiques, puisqu'effectivement il y en a sur le terrain. Notre journal a pris un vrai tournant aussi aujourd'hui. On doit parler de toutes les initiatives bio, on y va, on va sur le terrain, on regarde, on retranscrit ce qu'on voit avec toute l'objectivité des journalistes bien sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des installations qui nous échappent, et quel que soit le modèle choisi par l'agriculteur.
Jean-Henri Cateau, vous avez votre journal, un recul suffisant, puisqu'il existe depuis plus de 20 ans, je crois.
Oui.
Vous-même, depuis quand vous occupez-vous de ce journal? Et depuis quand vous passionnez-vous, j'espère, pour ce monde rural?
Alors moi, ça fait maintenant plus de 22 ans que je suis au journal. Donc je suis arrivé ici pour... J'avais été recruté pour vendre de la publicité, donc le responsable de la publicité, et pour relancer les abonnements. Et puis après, les faits de vie ont fait qu'on m'a proposé de différents postes jusqu'au poste de directeur général. et de directeur des rédactions. Donc c'est quelque chose effectivement qui me passionne, tant et si bien que j'ai aussi pris des responsabilités nationales dans ce syndicat de la presse agricole et rurale, par exemple, pour pouvoir confronter nos idées locales avec l'ensemble des titres de la presse agricole. Donc je suis le président du syndicat national de la presse agricole, renouvelé la semaine dernière.
Alors, voilà. Félicitations, mais avec le recul et l'expérience que vous avez, donc vous venez de confirmer, comment est-ce que vous caractériseriez l'agriculture et le monde rural périgourdin ? Bon, tout le monde est convaincu que le Périgord est un petit paradis sur Terre, mais est-ce que c'est une agriculture qui est plus robuste, à votre sens, que l'agriculture d'autres régions françaises ?
Oui, et alors très clairement parce que la polyculture élevage nous a bien aidés, c'est-à-dire que les régions monoculture, c'est compliqué, hein, quand vous faites que du blé et que les cours du blé qui sont aujourd'hui rattachés aux cours mondiaux se cassent la figure, ben, vous voyez votre revenu fondre à vue d'œil en fonction de la bourse. C'est ce qui est compliqué. Chez nous, c'est de la polyculture élevage, donc c'est des exploitations probablement moins riches, entre guillemets, mais effectivement qui génèrent moins de bénéfices, mais qui ont su ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est un peu ce qu'on dit. Donc effectivement, on a aussi le tourisme qui a bien aidé, hein, le réseau Bienvenue à la ferme chez nous est bien développé. Donc aujourd'hui, on a des... On a probablement des exploitations qui sont plus armées pour affronter les difficultés aujourd'hui commerciales des marchés, la fluctuation des différents marchés et les relations avec notamment les grandes surfaces ou quelque chose comme ça. On est plus armé en Dordogne probablement.
Sauf évidemment dans les cas extrêmes de spécialisation où effectivement oui. un avatar climatique peut tout compromettre.
Oui, clairement. Oui.
Nous allons terminer, puisque le temps passe trop vite, comme je le fais traditionnellement avec mes invités, en vous demandant si vous avez d'autres passions que l'agriculture. Est-ce que, dans votre temps qui doit être quand même bien compté et bien employé, est-ce que vous avez le temps de faire autre chose que de penser au monde agricole et à ses problèmes ?
Oui. Heureusement, alors j'ai été longtemps très actif dans le club de volley de Bergerac, qui a été ma passion sportive. Or, qui j'ai dit qui a été, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on est obligé de se calmer un peu sur les ambitions sportives. C'est-à-dire que le corps réagit moins bien que quand on a 20 ans. Voilà. Donc, oui, très longtemps engagé dans le club de volley de Bergerac. Et aujourd'hui, je vais plutôt me ressourcer dans le parapente qui est moins violent pour mon corps et qui est beaucoup plus agréable. Et en Dordogne, on peut en faire, donc c'est un vrai plaisir.
Ah oui, à quel endroit,
Côte de Genre est probablement l'endroit où vous verrez des parapentes et c'est joli. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la Côte de Genre, vous verrez des parapentes, c'est plutôt sympa.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.